Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en février 2010 et c'est l'épisode numéro 28. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech pour ce 28e épisode. Aujourd'hui, on va parler de Windows Phone 7, de Google Buzz, de pub sur iPhone, de Kindle et de plein d'autres choses. Ça a été 15 jours assez mouvementés, donc on va avoir beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, je salue mes deux co-animateurs préférés, Jeff et Yann, sauf que Jeff, visiblement, a eu un souci de Skype et qu'il n'est plus avec nous. Donc, je vais d'abord te demander à toi comment tu vas, Yann.
Ben, écoute, ça va vachement bien. Hein. Je pète la forme et je suis vachement content d'être tombé sur ce rendez-vous tech où il va y avoir plein de choses de sympas sur lesquelles on va pouvoir parler. Donc, j'ai eu du bol et je suis content de retrouver également la chatroom. Donc, ça va super bien.
Et la chatroom est là aussi, bien sûr, comme d'habitude. Si vous voulez nous rejoindre, toutes les informations sont sur le blog. On vous en dira un petit peu plus à la fin de l'émission. Mais entre-temps, je demande aussi des nouvelles à Jeff en direct de la Silicon Valley. Comment vas-tu ?
Eh ben, Jeff va très bien. Il revient juste, il s'est reconnecté. Mon bridge Verizon Wireless m'avait laissé tomber pour 2 minutes. Bonjour à tous depuis la Silicon Valley où il fait de nouveau beau et chaud. Et où on a plein de choses intéressantes à vous raconter.
Tu reviens de la conférence TED, si j'ai bien compris ?
Tu as bien compris, j'étais à Long Beach depuis mardi pour la conférence TED, Technology, Entertainment and Design, qui est ma conférence préférée parmi toutes les conférences technologiques, et où je vais de façon très intéressée depuis 5 ans maintenant. C'est un moment personnel en fait, plus qu'un moment, je dirais, pour le boulot, parce qu'on apprend toujours plein de choses, on rencontre toujours plein de gens extraordinaires. Et donc, c'est un moment un peu spécial dans mon année pour moi.
On en avait parlé un petit peu déjà dans l'émission, parce que TED, c'est l'une des conférences les plus intéressantes qu'il ait été donné au monde de voir. Moi, j'en ai parlé, j'ai envoyé des liens vers quelques vidéos sur Twitter. Et il y en a quelques-unes qui sont véritablement saisissantes cette année encore, et notamment, enfin, il y en a deux que j'ai retenues, la présentation de Sixth Sense, qui est une sorte de réflexion sur l'interface homme-machine, qui, à mon sens, est la chose la plus intéressante que j'ai vue depuis le multitouch.
C'est formidable. Ouais.
Ouais, qui était vraiment. On vous mettra un lien dans les notes de l'émission. Bon, puisqu'on se lance là-dedans, je vais en parler très rapidement, mais c'est un laboratoire de recherche de l'Université de Los Angeles, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas dire plus que ça, mais ils ont mis une sorte de webcam et de projecteur sur une sorte de boîtier qu'il porte en pendentif, ce qui fait que le projecteur peut projeter sur n'importe quelle surface qui est devant vous, même votre main ou un mur devant vous, une feuille de papier que vous tenez devant vous, devant votre poitrine. Et en même temps, la webcam qui est intégrée repère les mouvements que vous faites avec vos doigts. Donc il y a des petits caches de couleurs, des sortes de petits morceaux de scotch collés au bout de vos doigts de différentes couleurs. La webcam reconnaît tout ça et fait des actions en fonction des mouvements que vous faites. Genre par exemple, pour prendre une photo, on met les deux pouces... Enfin, il y a des indicateurs sur les pouces et les index de chaque doigt. Donc on met les doigts comme ça, comme si on prenait une photo avec les deux mains et ça prend la photo pour vous, devant vous, etc., etc. Il y a plein d'interfaces intéressantes et ça pourrait évidemment, pas sous cette forme, mais sous une forme un petit peu différente, arriver dans des produits grand public d'ici quelques années. Et c'était vraiment, vraiment intéressant, quoi.
Ouais, c'était bluffant. C'était très prototype pour le moment, mais c'est clair que ça donnait des idées, des interfaces de demain. Et c'est vrai que j'étais assez bluffé aussi pour, par cette présentation.
Ça, bah, ça m'a cette année, dans le même acabit, on a eu une démo de la technologie de réalité virtuelle intégrée que Microsoft a mis en place, où c'était assez bluffant, quoi. Je veux pas en parler en avance parce que bon, ce serait dommage de
gâcher la surprise aux gens qui
gâcher la surprise, ouais. Mais c'était vraiment assez bluffant, quoi.
Il y avait ça et une autre vidéo que toi tu as envoyée sur Twitter aussi, Jeff. C'était la vidéo de Jamie Oliver, qui est le chef au sens cuisine du terme, bien connu, qui a fait un plaidoyer assez saisissant sur l'importance de l'alimentation chez les enfants et l'importance du savoir cuisiner de base, qui était tout à fait éloquent et là aussi très intéressant. C'est sur Twitter et puis on mettra les liens dans les notes de l'émission, là encore.
Oui, c'était assez incroyable. Je vais en passer 30 secondes là-dessus. Mm-hmm. En fait, un des gros problèmes, comme on le sait aux États-Unis, c'est l'augmentation assez catastrophique du nombre de gens obèses, que ce soit en fait au travers de différentes couches de la population et différents âges. La statistique effrayante à laquelle Jamie Oliver faisait référence, c'est que pour la première fois depuis l'histoire de l'évolution humaine, le temps moyen de vie de la prochaine génération, donc nos enfants, sera inférieur à la nôtre à cause justement des problèmes d'obésité et de mauvaise nourriture. Et donc, il a passé 18 minutes à expliquer son combat, mais aussi ce qu'il essayait, en fait, comment il essayait de rendre le sujet plus connu et comment il essayait de fixer le problème, puisqu'en fait, il a réussi à faire passer une loi en Angleterre qui a en gros révolutionné le système de cantine dans les écoles, qui est une des sources des problèmes. Et donc, il essaie maintenant de faire la même chose aux États-Unis. Et un des segments qu'il montrait, c'était donc dans une classe, on voyait des gamins de 6-7 ans à qui on montrait en fait des légumes, que ce soit des pommes de terre, des tomates, etc. Et c'était la première fois que ces gamins, qui avaient 6-7 ans, voyaient en fait un légume. Parce qu'en fait, ils sont dans un endroit où les parents ne cuisinent pas chez eux, ne font rien en termes de préparation, de légumes, de choses comme ça. Et donc, les gamins n'avaient jamais vu une tomate. Et c'est assez effrayant.
Ouais, et ils leur demandent de reconnaître, de nommer le légume, et ils ne savent pas, quoi. Ils voient une tomate, ils disent une pomme de terre.
Pomme de terre.
Et c'était en Angleterre, hein, ça, c'était pas aux États-Unis. Donc,
C'est aux États-Unis. En fait, il a décidé d'amener son combat aux États-Unis et s'est installé dans une ville de Virginie qui est censée être la ville où on mange le plus mal. Et il en a fait une émission de télé-réalité, parce qu'aux États-Unis, si tu veux faire passer un message, tu dois passer par la télé-réalité. Non, mais c'est vrai, c'est triste, mais c'est comme ça.
Ouais.
Et donc, il a un show qui est très populaire autour de ça, et ce qu'on voyait, en fait, c'est des images de ce show.
C'est vrai que, bon, on va pas passer la soirée sur TED, mais c'est vraiment l'un des trucs les plus fascinants que vous puissiez voir sur Internet. C'est sur TED.com et il y a énormément de conférences comme ça. Ça dure 18 minutes à chaque fois, enfin, disons une vingtaine de minutes, et c'est à chaque fois passionnant. Donc, je ne saurais trop vous encourager d'aller y jeter un coup d'œil. C'est passionnant et ça rend énormément de sujets différents intéressants. C'est ça qui est très fort aussi. Bon, donc voilà, ça c'était la petite aparté TED. Maintenant, on va passer à nos sujets principaux, mais pas avant d'avoir remercié les personnes qui nous ont laissé un pourboire sur le site de l'émission. Comme vous savez, il y a un petit lien sur la droite, sur lequel vous pouvez cliquer pour me laisser un petit pourboire pour faire tourner les machines derrière. Donc, si vous le faites comme les personnes qui l'ont fait cette fois-ci, je les remercie énormément. C'est Hélène, Valentin et Pierre qui ont tous les trois choisi de nous laisser un petit peu d'argent. Et je les remercie donc du fond du cœur parce que ça fait très plaisir et ça donne un petit coup de main. Et donc, nos sujets principaux pour l'émission, il y en a quelques-uns. Et là encore, on va faire une deuxième petite aparté. Vous attendez tous Windows Phone 7 et Google Buzz, etc. Mais on ne peut pas commencer l'émission sans laisser à Jeff et Yann l'occasion de parler un petit peu de l'iPad. Oui, je sais, je suis désolé, on en parle encore un petit peu. Mais bon, il n'était pas là la dernière fois, ça a été annoncé, tout ça, et puis c'est quand même un événement important. Donc, j'aimerais avoir leur avis très rapidement. On ne va pas chronométrer, mais vous allez faire moins de 2 minutes, hein, comme nous, on l'avait fait l'autre fois, pour nous donner votre avis. Et on va commencer par Yann, avec qui je pense ça va être corsé.
Bah, écoute... Au début, quand j'ai vu la conférence, je me dis « Ah, c'est sympa et tout », j'étais assez emballé. Et puis, une fois que le buzz est retombé, sans faire de jeu de mots, je trouve que finalement, c'est pas si terrible que ça. Je reste vraiment sur ma faim. Alors, on l'a déjà dit, bah, bien évidemment,
j'étais
absolument certain que Jeff...
Je moque, mais
franchement, c'est juste un iPhone plus gros, quoi, c'est tout. Mais tout ce que j'attendais finalement de l'iPhone et que Apple n'a jamais implémenté, j'avais de grands espoirs. Beaucoup de gens ont lancé des idées sur ce que serait le tablette d'Apple. Et puis finalement, il y a beaucoup de choses qui manquent à l'appel. Il y a toujours pas de flash, il y a toujours pas de la possibilité d'installer des applications OS X directement sur l'iPad. Donc il y a beaucoup de choses qui pour moi manquent à l'appel, et ça m'a même donné envie d'acheter un... Comment on appelle ces trucs, les Arcos, là, justement. D'ailleurs, quand je suis arrivé au Canada et que j'ai demandé un Arcos, on m'a regardé avec des yeux bizarres. Mais franchement, je suis vraiment déçu, et je ne pense pas, très sincèrement, que je ferai partie des clients de l'iPad. Voilà.
D'accord. Alors, sans répondre directement à Yann, parce qu'on a déjà eu des débats épiques sur le sujet, Jeff, moi j'ai déjà dit ce que j'en pensais, donc on saura que je suis pas forcément d'accord avec cette analyse, mais Jeff, toi, qu'en penses-tu en 2 minutes ou moins?
Je le veux, j'en veux un le premier jour, j'en veux un 30 jours plus tard, parce que c'est là au moment où on aura la version 3G. Bon, plus sérieusement, je pense que ça va être un device qui va être intéressant, puisque ça va répondre à un besoin qui se situe effectivement entre le smartphone, donc l'iPhone, le BlackBerry, etc., et puis le vrai ordinateur. Je suis personnellement pas du tout un fan des netbooks. Je pense que ce sont des ordinateurs qui sont très peu intéressants, parce qu'ils ont un tout petit écran, un tout petit clavier et pas de puissance. Et par contre, je pense que la notion de tablette est intéressante, parce que ça permet en fait d'avoir un ordinateur qui soit très orienté consommation de données, que ce soit livres, journaux, vidéos, audio, etc., dans une forme qui est facile à trimballer, facile à avoir sur les genoux, facile à utiliser dans un contexte que je dirais casual, que j'appellerais casual. Et je pense que l'iPad tel qu'ils l'ont a priori construit, designé, parce que ça fait quand même 5 ans qu'ils travaillent dessus, hein. C'est pas un sujet sur lequel ils se sont dit bah tiens, pourquoi on ferait pas un troisième device, quoi. Et donc ils ont passé beaucoup beaucoup de temps à essayer de voir quels sont les composants, quelles sont les fonctionnalités, quel est l'OS. Et je pense qu'une des choses intéressantes, c'est qu'ils ont dit bah, plutôt que de prendre un MacBook et d'en faire une version réduite, prenons un iPhone et essayons d'en faire une version troisième device, plus avancée, avec un super processeur, avec un joli display. Et je pense qu'on va voir arriver donc dans 45 jours maintenant, 45 jours, la première génération d'iPad. Je pense que il n'y aura pas tout dedans. Effectivement, je suis d'accord, c'est dommage qu'il n'y ait pas une caméra, parce que je l'aurais bien vu en fait pour faire des petites vidéos.
Ouais, comme tout le monde, c'est ce que tout le monde dit.
Mais il ne faut pas oublier non plus que les gens d'Apple ne sont pas bêtes, et que nous, par contre, les consommateurs, on est bêtes. Et donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération qui arrive avec une petite fonctionnalité en plus, on l'achète. Et donc, c'est ce qui va se passer, à mon avis. Ils vont lancer le produit, ça va avoir, à mon sens, pas mal de succès. Les gens vont se rendre compte que d'un seul coup, ça répond à un besoin auquel ils n'avaient pas forcément conscience. Personnellement, je ne suis pas un fan du Kindle. Enfin, j'applaudis le Kindle pour ce que c'est, mais quand tu vois l'interface utilisateur et l'expérience, c'est nul à chier. Et pour voir en fait l'équivalent dans le monde de l'iPad, donc lecture de livres, etc., c'est beau. Et donc, j'attends avec impatience d'avoir mon iPad.
D'accord. Bon, écoute.
Et je le montrerai sous le nez de Yann. La prochaine fois que je serai à Montréal, je mettrai mon iPad sous le nez pour qu'il puisse voir pourquoi c'est beau.
Et je serai pas du tout jaloux.
Bon, bah écoute, on verra. De toute façon, réponse.
Alors là, c'est pas sûr.
Réponse dans quelques semaines, en tout cas.
On verra bien.
Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec Jeff, mais l'avenir nous dira qui avait raison. Mais ceci dit, j'aimerais rappeler que Yann faisait la fine bouche par rapport à l'iPhone pendant longtemps et maintenant il regrette son iPhone.
Non, du tout. J'ai toujours reconnu que l'iPhone était un excellent device, mais pour moi, l'iPad est juste un iPhone plus grand. C'est tout. Oui. C'est dommage.
J'aurais des choses à dire, mais je me retiens. Donc,
pour ça que je profite en fait.
Bon, écoute, tu sais quoi? Puisque commencé. Non. Je me tiens à ma discipline. J'allais dire, tu sais quoi? Puisqu'on a commencé à parler de téléphone, dirigeons-nous très habilement vers le Windows Phone, le nouveau système d'exploitation pour téléphone portable de Microsoft, qui est Windows Phone 7, qui a été présenté aujourd'hui même. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder de quoi il s'agissait.
Si, j'ai dévoré toutes les vidéos qui étaient disponibles, mais je pense que tu seras surpris. Donc effectivement, comme tu viens de le dire, c'est le nouveau système d'exploitation mobile qui donne suite à Windows Mobile 6X qu'on trouve maintenant sur tous les téléphones équipés de l'opérateur. Du système d'exploitation de Microsoft. Donc c'est la nouvelle version qui a été entièrement repensée, révisée et dont l'interface utilisateur n'a strictement plus rien à voir avec ce qu'on a déjà vu sur les autres téléphones équipés de l'OS de Microsoft. Donc ça s'inspire clairement de l'interface du Zune HD. Donc avec
Pour ceux qui savent pas, parce que le Zune n'est pas vraiment disponible en France. C'est vrai. Le Zune, c'est l'équivalent de l'iPod chez Microsoft. C'est leur lecteur multimédia, MP3 et vidéo. Interface qui est acclamée par l'industrie, que tout le monde trouve très bien.
Ouais, c'est là qu'il commence à... je le dis tout de suite, hein, moi, je n'ai pas été emballé du tout par Windows Phone 7.
C'est vrai?
Non, du tout. Autant l'interface pouvait aller pour un truc pour écouter de la musique et regarder la vidéo, autant je pense qu'elle ne correspond pas à celle d'un téléphone. Et donc, franchement, je reste sur ma faim puisque il propose un navigateur internet, mais il y a toujours pas de flash. Alors qu'on est aujourd'hui en 2010, 97% des sites ont besoin de flash pour afficher un menu ou quoi que ce soit. Donc, je trouve incroyable qu'on puisse sortir un périphérique qui ne supporte pas le flash quand il s'agit de navigation sur internet. On n'a pas parlé du multitâche. En tout cas, ils n'ont pas mentionné cette feature. Mmh.
Mais alors, attends, avant qu'on se lance dans les détails, peut-être expliquer en quoi, qu'est-ce qui est nouveau dans cette interface, parce qu'il y a leur, comment ils les appellent, leur hub, leur centre, centre d'intérêt, où il y a 5 hubs différents, un pour les personnes, un pour les médias, un pour les jeux, un pour Office, donc pour les utilitaires de productivité, comme Office, comme Microsoft Office. Je crois que c'est tout, hein. Mais qu'est-ce que ça permet de faire en fait ce nouveau type d'interface?
Ils ont présenté enfin l'interface se représente sous forme de tuiles. Ils appellent ça je sais plus comment ils l'ont appelé en anglais, mais faut se dire qu'on a une interface qui est très très proche aussi de ce qui se fait sur Windows Media Center. Une interface avec un ensemble de tuiles qui permet d'aller sur Facebook, de voir ses contacts Facebook, de pouvoir regarder sa boîte mail avec toutes les options d'Outlook, donc la possibilité de regarder nos mails qui ont été lus, ceux qui ont été flaguer, de pouvoir rajouter des contacts. D'ailleurs, la partie contact ressemble beaucoup à celle qu'on retrouve sur le Palm Pre, c'est-à-dire que dès que vous synchronisez donc votre Windows Phone 7, il va absorber tous les contacts qu'il peut retrouver sur votre ordinateur et créer une fiche. Et ça, personnellement, je trouve ça frustrant puisque des fois, on reçoit un mail de quelqu'un qu'on ne connaît pas et puis ça va automatiquement vous rajouter donc un contact juste avec l'adresse email de la personne et on se retrouve pollué dans sa fiche, dans son répertoire de contacts avec des centaines et des centaines de personnes qu'on ne connaît Pas forcément. Ils ont donc visé beaucoup sur l'aspect social, donc connecté à Facebook, probablement également à Twitter, connecté sur Office également avec donc un client mail qui se rapproche beaucoup d'Outlook, bien évidemment connecté avec tout ce qui est téléchargement de musique gratuitement à partir du moment où on a un compte Zune Store ou je ne sais plus trop comment ils les appellent. Finalement, je trouve que l'aspect téléphone même a été un peu en retrait. On a l'impression d'avoir juste un Zune qui sait également faire téléphone, mais c'est pas aussi, je sais pas, c'est pas aussi sexy déjà visuellement qu'un iPhone. Alors on pourrait dire que c'est encore quelque chose qui est en cours de développement, ce qui est vrai parce qu'il n'est pas encore disponible. Mais j'ai trouvé que l'interface faisait brouillon. J'ai pas senti
mais
en fait.
Il y a des trucs marrants quand même sur comme le fait que les icônes qui sont sur le bureau de, enfin sur le bureau, sur l'écran d'accueil des Microsoft, enfin des téléphones Windows 7. Et c'est des icônes actives, on peut mettre l'icône d'une personne et sur l'icône vont s'afficher des informations relatives à ce qu'elle fait sur Internet, sur Facebook ou sur d'autres sites. C'est intéressant quand même ça comme innovation, non ?
Franchement, enfin, déjà, ils mettent vraiment des icônes qui sont vraiment clichés. C'est-à-dire que sur l'écran d'accueil, on va retrouver les dernières photos qu'on a prises ou des choses comme ça. Mais personnellement, moi, je veux pas de ça sur mon home. Les slideshows de les diaporamas des photos que j'ai sur mon PC ou que j'ai sur Facebook, c'est pas ce que je veux sur ma home screen. L'écran d'accueil, je le trouvais très beau.
C'est vrai qu'il est un petit peu brouillon. Ça, j'avoue que c'est une impression que j'ai eue aussi.
Et donc il y a ça. Puis franchement, on parlait de TED tout à l'heure. Il y a eu tant de choses qui ont été sur lesquelles les scientifiques ont travaillé en termes d'ergonomie, en termes de nouvelles technologies. Et quand on voit tout l'argent et tout l'investissement qu'a fait Microsoft sur ce téléphone, on pouvait s'attendre à quelque chose de révolutionnaire. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que ce que qu'a fait Microsoft avec le Windows Phone 7, c'est juste combler un petit peu le fossé énorme qu'il y avait entre Windows Mobile et l'iPhone, mais ils n'ont fait que boucher un petit peu ce fossé, mais ils n'ont pas créé la révolution. Et pour moi, que Microsoft puisse vraiment être un vrai concurrent de l'iPhone, il faut qu'il tape bien plus fort que l'iPhone. Et aujourd'hui, j'ai vu juste quelque chose qui se rapproche de l'iPhone sans vraiment y arriver.
Dans la chatroom, Altaït dit Windows 7 Phone, c'est le Facebook Phone. Et c'est vrai qu'ils ont énormément insisté sur l'aspect Facebook du téléphone. Alors, je dirais deux choses à ce propos. D'une part, c'est vrai qu'on sentait le spectre de l'iPhone planer au-dessus de la présentation du début à la fin. À chaque fois, ils utilisaient des allégories du type « Oui, le marché des smartphones a beaucoup évolué, il y a beaucoup d'applications sur les smartphones aujourd'hui, mais il y a uniquement une manière d'accéder à telle ou telle chose et il y a un seul gardien qui va autoriser telle ou telle chose. » Ils parlaient d'Apple sans en parler vraiment. Mais ce que j'ai ressenti, c'est deux choses. D'une part, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Facebook dans ce téléphone, et par cet aspect, j'ai trouvé qu'il y avait un problème fondamental dans la conception de l'appareil, enfin dans la conception du système, c'est que ils ont lié l'ensemble du système à certaines applications que eux doivent maintenir. Et là où ils disent on n'a pas besoin de passer par une application Facebook pour accéder à Facebook, c'est directement dans vos contacts et dans vos photos et dans vos machins. Moi, je vois pas pourquoi c'est un problème de passer par l'application Facebook. Au contraire, comme tu le disais tout à l'heure, moi, j'ai pas forcément envie que mes machins de Facebook viennent envahir tout mon téléphone. C'est plus un problème qu'autre chose. Et si c'est pas correctement maintenu par Facebook et par Microsoft et par moi qui dois travailler pour nettoyer les trucs derrière parce que l'importation est pas toujours super clean. C'est gênant. Et puis, si ils incluent Facebook, il faut qu'ils incluent aussi Twitter. Et puis, si demain il y a un autre truc, par exemple Buzz, dont on va parler dans pas longtemps, il faudra aussi qu'ils incluent Buzz, sinon c'est plus tellement cohérent. Enfin, pourquoi ne pas laisser chacun de ces trucs dans leur application spécifique pour y accéder par ce biais-là ? ça me paraissait un petit peu... C'est genre, c'est la fausse bonne idée, quoi. On va tout intégrer dans votre vie et tout va être super bien jumelé et machin. Et au final, c'est plus le bordel qu'autre chose. Donc ça, c'est la première chose à mon sens. La deuxième chose, c'est un petit peu plus positif quand même. Même si c'est vrai qu'on voyait le spectre de, de l'iPhone partout, le résultat de ce Windows 7 téléphone n'est pas mauvais quand même. Il y a un bond en avant par rapport aux anciennes versions de Windows pour téléphone qui est assez important. Ouais, qui est bon, on peut le dire, c'est gigantesque et ça amène les téléphones Windows au niveau des smartphones comme les smartphones Google ou les smartphones d'Apple. Et ça, c'est très important parce que ça établit Windows 7, Windows Phone 7 comme un des concurrents dans ce marché. Et ça veut dire qu'on va... Le boulot de Microsoft, en quelque sorte, un autre truc sur lequel ils ont beaucoup insisté, c'était le fait que leur boulot, c'est de faire fonctionner tous les opérateurs, tous les constructeurs, tous les différents appareils ensemble. Et ils donnent en fait cette possibilité... un petit peu de manière un petit peu gauche ou de manière un petit peu moins convaincante, mais il donne cette possibilité qui existe avec des systèmes plus fermés comme celui de l'iPhone et dans une certaine mesure, enfin, et d'autres systèmes du même genre. Il donne cette possibilité à n'importe qui décide, bon bah moi je veux faire mon téléphone, j'ai un système ouvert qui va me permettre de construire un téléphone. Ils avaient l'option Google déjà, ben maintenant il y a l'option Microsoft qui est très cohérente et très viable et qui est complètement au niveau. Et ça, c'est le vrai fonds de commerce de Microsoft. C'est d'amener les innovations peut-être qu'ont créé d'autres personnes comme Apple à un niveau utilisable pour tout le monde et pour tous les constructeurs et que ça fonctionne de manière cohérente ensemble. Tous les constructeurs, tous les opérateurs, etc. Et en ce sens, moi, je crois qu'ils ont réussi à atteindre ce but. Et même si c'est pas complètement révolutionnaire, comme tu le disais, Yann, il y a quand même une valeur dans cette... Dans cette mission qu'a Microsoft de donner ce système accessible à tout le monde et qui fait travailler tout le monde ensemble. Donc,
peut-être que Jeff aura un avis différent sur la chose.
C'est vrai qu'il est bien, silencieux.
Non, je regardais les photos de l'iPad. L'iPad, c'est beau par rapport à. Non. Le problème, c'est que ça ressemble au Zoom HD. Et j'aimais vraiment pas ce device. Je trouve que l'approche qu'ils ont prise est intéressante, c'est-à-dire de prendre un. On va faire quelque chose de différent. On va pas essayer de refaire juste un OS qui ressemble à Windows 7, enfin à Windows 6, machin, je sais pas quoi, là, sur Windows Mobile. Le problème, c'est que je suis pas sûr qu'ils aient sorti quelque chose de vraiment différent, intéressant, ce que tu disais, Patrick. Et franchement, pour moi, c'était un big yawn, quoi. Je suis un peu déçu parce que moi je m'attendais franchement à quelque chose qui serait compétitif, qui serait éventuellement le troisième larron entre l'iPhone
et Android. Tu doutes que ça devienne le troisième larron? Moi, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus maintenant.
Regarde le marché des devices aujourd'hui. Donc tu vas avoir Android que je vois franchement quand même être poussé pas mal. Parce que tu as Google derrière, parce que tu as beaucoup de constructeurs. Et puis objectivement,
bon, là, il y a quand même Microsoft derrière, c'est pas rien.
Ouais, mais.
Excusez-moi, j'ai.
Non, mais je suis d'accord, il y a Microsoft derrière et Microsoft est extrêmement tenace. C'est ce que j'admire beaucoup de Ballmer. S'il te dit, il me faudra un an, il me faudra 5 ans, il me faudra 10 ans, mais je les aurai. Ouais. Et quand tu regardes un peu, c'est ce qu'ils ont fait avec l'Xbox, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Bing. Bon, c'est toujours pas énorme comme marché, mais ils ont réussi quand même à prendre une part de marché dans le monde du search. Et c'est vrai que vu leur force économique et leur capacité de distribution, ils vont pouvoir imposer des choses. Mais franchement, je sais pas, j'attends avec impatience d'avoir un téléphone Windows 7 dans les pattes. Hein. C'est dommage que Joe Belfiore, qui était à TED, n'ait pas fait ce que Google a fait, c'est-à-dire de filer à tout le monde un téléphone Windows. Je pense que ça aurait été une bonne... Non, mais c'est ce qu'ils ont fait. Les mecs de Google, ils sont ramenés avec des milliers de Nexus One. Ils ont filé à tout le monde dans la conférence à Palm Springs, les mecs qui étaient derrière les caméras. C'est ça le marketing aussi. Et je pense que c'est un peu dommage qu'ils aient loupé le coche. Quoi.
D'accord. Parce que, dernière...
Et je trouve que... Pour le moment, je reste sur ma faim. Donc, la prochaine fois que je vais à une conférence Microsoft, j'espère qu'ils me mettront un téléphone dans les poignes et puis qu'on verra un peu ce que ça donne. Mais c'est pas le genre de truc. Je suis pas. Je le veux dans 45 jours, comme on est.
Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas le genre de truc, le genre de réaction. Une dernière chose par rapport à la similitude avec.
L'iPhone.
L'iPhone, c'est le fait qu'il y ait maintenant, on puisse utiliser le logiciel du Zoom, donc le Zoom Player, je ne sais pas comment ça s'appelle, sous Windows, pour synchroniser toutes les parties du téléphone Microsoft avec les parties qu'on a sur notre PC, de la même manière que iTunes synchronise avec
Tu vois, rien que ça, je trouve que c'est encore has-been, quoi. Moi, j'aimerais bien que, voilà, j'arrive chez moi, j'ai pas besoin de le sortir de ma poche, il détecte automatiquement mon PC et à portée et il synchronise en wireless ou en Bluetooth. Ah, ou ce
ça,
qu'il
peut-être
veut,
que
vois.
Ça va arriver. Hein. C'est pas ouais. Ils ont pas dit qu'il était obligatoire d'avoir une connexion filaire, peut-être. Je sais pas.
Apparemment, ouais. C'est toujours avec ActiveSync, bon. Leur ancienne techno, quoi. Donc,
bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que deux choses à retenir. Le téléphone est très proche du Zoom, pour ceux qui savent de quoi il s'agit. Et il n'y a rien de révolutionnaire. Moi, j'en rajouterai une troisième. Ça fédère suffisamment de standards et d'énergie pour en faire un système incontournable sur le marché des smartphones, à mon sens. Et c'est, pour moi, c'est pas un ratage de Microsoft. Ils arrivent à revenir au niveau suffisant pour être compétitif. Mais bon, on verra un petit peu ce que ça donne d'ici quelques temps, parce que l'appareil ne sera pas disponible. Enfin, l'appareil, le système ne sera pas disponible avant, a priori, la fin de l'année, si je ne m'abuse. Et il est très possible que, de la même manière que Google a son propre téléphone, Microsoft sorte également son propre téléphone. On parle de noms de code comme le Turtle, le Pink, enfin le projet Pink. Il y a le Turtle et un autre nom, je ne sais plus ce que c'est. Mais il y aura sans doute un téléphone Microsoft officiel, comme il y a un téléphone Google officiel. Et ça nous permettra de juger sur pièce de la qualité du système d'ici quelques mois. Autre chose, autre sujet très intéressant qui a fait exploser la twittosphère et l'internet en général la semaine dernière, c'était l'arrivée fracassante de Google Buzz. Alors, qu'est-ce que c'est que Google Buzz ? Google Buzz, c'est la deux ou troisième tentative de Google pour rentrer dans le marché dans le domaine du réseau social. Et pour décrire Google Buzz, diable, comment faire ? Alors, je suis désolé, hein, mais il va falloir que vous connaissiez un petit peu Twitter pour comprendre cette explication. Et si vous connaissez Facebook, vous connaissez un petit peu Twitter aussi. C'est-à-dire que ils ont intégré à Gmail, une interface complètement indépendante de Gmail, mais qui est dans la même fenêtre, dans laquelle on peut mettre à jour des statuts, comme c'est le cas, on met son statut à jour, comme c'est le cas sur Facebook ou sur Twitter. C'est un système qui est assez similaire à Twitter déjà, ou pour ceux qui connaissent vraiment les réseaux sociaux, à Plurk. Ça vous dira quelque chose, les autres peut-être pas, mais ce que ça change par rapport à Twitter, c'est que vous pouvez répondre à un message de quelqu'un qui a envoyé un message et votre réponse sera accolée à son message, un petit peu comme sur Facebook. Vous pouvez donc lui répondre et vous avez une sorte de conversation qui peut s'engager comme ça avec les personnes que vous suivez, parce que quand ils envoient un message, vous pouvez répondre à leur message et ils vont vous répondre ensuite et d'autres personnes vont répondre, etc. Alors, l'autre truc intéressant et qui est problématique à la fois, c'est que la manière dont il fonctionne au lancement, quand vous lancez Google Buzz pour la première fois, c'est qu'il va lui-même peupler votre liste de personnes que vous suivez en fonction des personnes avec qui vous communiquez le plus par email. Donc ça a un avantage et un inconvénient à la fois. C'est que l'avantage, c'est que vous n'avez pas vraiment besoin d'aller rechercher les personnes à suivre, les personnes qui pourraient être intéressantes, etc. Vous pouvez directement avoir des gens à suivre et c'est directement intéressant tout de suite sans avoir à mettre en place de choses compliquées comme c'est le cas peut-être sur Twitter ou même sur Facebook. un avantage, c'est qu'il y a des problèmes, un désavantage, pardon, c'est qu'il y a des problèmes de vie privée que ça implique. Et on en reparlera peut-être dans quelques minutes. Un autre désavantage, c'est que à chaque fois que quelqu'un va mettre à jour un message auquel vous avez participé, vous allez avoir une alerte, une copie de ce message qui va arriver par mail. Et ça, c'est un petit peu gênant parce que comme il y a des gens, si vous suivez quelqu'un, par exemple, qui a 1000, 2000, 10 000 followers, à chaque fois que l'une de ces personnes va répondre à un de ces messages, ça va vous re-renvoyer une alerte en plus, et ça va faire comme si vous aviez un nouveau mail. Du coup, les petits outils comme les téléphones ou même un outil sur votre bureau sur Windows ou Mac qui repère quand vous avez un email, ils se mettent à sonner j'allais dire comme des arbres de Noël, mais les arbres de Noël ça sonne pas tellement. Mais vous voyez l'image.
Et voilà, c'est.
Et il y a un autre problème aussi, c'est que à chaque fois qu'une nouvelle réponse est envoyée, le message en question va revenir en haut de votre chronologie. Donc c'est pas vraiment chronologique, c'est par les derniers messages, ce qui fait que quand vous voulez aller voir ce qui s'est passé, c'est un petit peu difficile d'accéder au tout dernier message, parce que des messages très anciens qui vont auxquels il va y avoir des réponses, parce que il y a 2000 personnes qui suivent cette personne et qui ont eu ce message, ils vont revenir tout en haut. Au bout d'un moment, vous en avez marre, vous voulez le virer le message. Vous voulez ne plus avoir les mises à jour, mais si vous voulez le virer le message, c'est possible, mais il n'apparaîtra plus jamais, donc il est perdu. Enfin, il y a quelques petits problèmes comme ça, mais le truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait de vraies conversations qui s'engageaient, parce que sur Twitter, une fois qu'un message est passé, il est passé et c'est terminé. On peut répondre genre en envoyant une at reply une ou deux fois, et puis après il est fini, il est tout en bas de la liste, et puis on va plus trop aller le chercher. Alors que là, il y a des vraies conversations qui peuvent s'engager. On peut également faire des messages plus longs, on peut y intégrer des liens ou des images ou des vidéos, ce genre de choses. Donc c'est un peu plus riche, mais il est légitime de se dire l'un des gros avantages de Twitter, c'est sa simplicité. Et Buzz devient un petit peu lourd et un petit peu pénible à suivre parce que justement il est trop complet. C'est pas une analyse très très complexe, mais en gros c'est pour expliquer de quoi il s'agit. Et comme je vous le disais, l'internet entier s'est emballé pour Buzz la semaine dernière. Je suis certain que vous deux vous y avez eu accès, vous avez regardé un petit peu de quoi il s'agissait. Est-ce que vous avez eu une analyse profonde sur le produit Buzz? On va commencer par Jeff peut-être.
Donc il y a eu un gros buzz autour de Buzz lors du lancement.
Attends, il me faudrait un petit sur le truc.
Ça, clairement, là, c'est la réponse. Enfin, c'est un essai de la part de Google de répondre à Twitter. La dernière fois qu'ils ont essayé de jouer un rôle dans le monde du social, c'est avec le lancement de Wave. Et Wave, c'est grand, c'est beau, c'est génial, mais c'est inutilisable parce que, en gros, personne n'a jamais véritablement trouvé une réelle utilité à ce truc.
Donc, je pense que Jérôme de No Watch qui est dans la chatroom, il va faire une attaque. Hein. Lui, il est fan de Wave comme c'est pas possible. Mais bon, c'est vrai que généralement.
Je suis content qu'il y ait une personne au monde qui aime Wave et qui l'utilise. Super. Et j'applaudis. Et moi, en tant qu'humain de base, j'ai pas réussi à utiliser Wave. Donc, Buzz, en fait, c'est quoi? Ça répond à deux choses. Une, c'est comment est-ce qu'on essaie de pousser quelque chose à nos centaines de millions d'utilisateurs de Gmail qui amène une nouvelle génération d'utilisateurs qui ne connaît pas forcément Twitter à interagir avec un nouveau mode d'opération, quelque chose de plus interactif. Et comment on fait quelque chose qui ne soit pas uniquement une copie conforme de Twitter, mais qui essaie de pousser Twitter un peu plus loin. Et je pense que dans cette première approche, c'est pas inintéressant ce qu'ils ont fait. j'ai discuté en privé avec mon copain Brad Lerowitz, qui est le patron en fait de toute l'activité des apps et dont Buzz chez Google, et donc je comprends un peu sa philosophie. Je pense qu'ils vont itérer assez rapidement sur pas mal de ces concepts en prenant en compte le feedback des utilisateurs. Moi, ce que j'attends avec impatience, en fait, c'est l'intégration de Buzz à l'intérieur des applications de type Sismic, parce que comme ça nous permet en fait de faire de la monocommunication multiplateforme. Donc on envoie sur Facebook, sur Twitter.
C'est ce que demandait Yann, genre le lendemain de la sortie du truc, il disait déjà.
Bah ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça, quoi.
Ça va arriver. Bon, je sais pas exactement quand ça va arriver parce qu'ils sont en train de travailler sur les API, mais j'ai connecté Loïc et Bradley, donc je pense que ça arrivera à un moment ou à un autre. Je pense qu'il faut pas il faut pas seulement regarder les choses comme est-ce que c'est mieux que Twitter, est-ce que c'est moins bien que Twitter, est-ce que c'est suffisant pour que les gens passent d'une plateforme à l'autre. Je pense que c'est franchement réducteur comme question. À mon avis, c'est tout à fait possible de penser que les gens se disent si c'est facile pour moi de balancer mon stream Twitter sur Buzz, je le ferai aussi. C'est vrai que Buzz a cette capacité à faire de la communication, enfin de la conversation un peu comme FriendFeed, qui est pas inintéressante, mais bon, il y avait aussi un risque à FriendFeed, c'est que c'était un gigantesque echo chamber que personnellement je n'aimais pas. Je pense que c'est intéressant, et comme tu le disais tout à l'heure pour Microsoft, bon, moi c'est du Google. Ils ont intégré à Gmail, ce qui rend les choses un peu compliquées, mais il ne faut pas sous-estimer la pénétration de Gmail aujourd'hui. C'est l'infrastructure d'email qui grossit le plus en termes de part de marché.
Bah, ils ont déjà 170 millions d'utilisateurs, quelque chose comme ça.
Ouais,
ce qui n'est pas négligeable du tout. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est autour de 150 millions et c'est monumental. Pour vous donner une idée, Facebook est aujourd'hui à 400 millions. Donc Facebook, c'est l'énorme mastodonte dans ce domaine. Donc 170 millions ou 150 millions, ce n'est pas du tout négligeable, quoi.
C'est pas négligeable. La question, c'est comment ils vont réussir en fait à prendre ces utilisateurs Gmail, dont une partie non négligeable en fait ne va jamais sur gmail.com, puisqu'ils utilisent, comme un peu tout le monde, des clients de type Entourage,
Excel,
ou Outlook. Et une des choses que Google ne sait pas bien faire, c'est du lancement de produits, typiquement de produits sociaux. Donc c'est là où j'attends un peu de voir comment ça va, comment ils vont goupiller quelque chose ce coup-ci, pour essayer de mettre en place une petite de communication et qu'ils expliquent aux gens pourquoi vous l'utilisez Buzz plutôt qu'un client email.
Ouais. D'accord. Bon, c'est donc un petit peu ambivalent, mais il y a quand même du potentiel, hein, d'après.
C'est intéressant. J'ai eu cette discussion avec Bradley. Et je peux pas dire ce qu'il m'a dit, mais c'est pas ce qu'ils ont en tête, c'est pas inintéressant.
Le teasing. D'accord. Ok. Bon, un avis d'utilisateur lambda dans ce cas, Yann, toi, t'as sauté dessus, mais.
Écoute, moi déjà je pense, enfin je suis pratiquement convaincu que Buzz percera, hein. Je pense que de la même façon que Messenger, Windows Messenger a phagocyté ICQ en son temps parce qu'il était directement intégré à Windows XP, je pense que le fait que Buzz soit directement intégré à Gmail va finalement à l'usure inciter les gens à l'utiliser. C'est juste un onglet qui se rajoute et psychologiquement, enfin, je sais pas pour vous, hein, la majorité des utilisateurs, mais moi, ma boîte mail, elle est clean. Et à chaque fois que je me connecte et que je vois que j'ai un message, je le vois tout de suite et il me met en parenthèse, j'ai 8 messages et je ne peux pas quitter ma boîte Gmail si je vois que j'ai des messages non lus. Il faut absolument que je les lise. Non, mais c'est vrai parce que
OCD les tocs de Yann.
parce que je veux que ce soit clean et que mais j'ai zéro message non lu. Et quand j'ai activé Buzz et que j'ai commencé à voir des buzz commencer à arriver, je ne pouvais pas fermer ma boîte Gmail sans voir les buzz auxquels j'étais abonné. Et donc, je pense que voilà.
Et donc, tu t'es mis à passer 14 heures par jour sur Buzz.
Parce que franchement, le truc était là, tout était déjà configuré. Il fallait que j'y passe pour voir ce qui s'était passé. Peut-être qu'on m'a sollicité parce que je le voyais un petit peu comme un vrai client mail. Comme Jeff le disait, je suis plutôt fan des clients lourds. Donc le fait de devoir me connecter à une page web pour vérifier mon flux de buzz, etc., ça me ça me gonfle, pour dire les choses simplement. Donc, pour tout dire, j'ai carrément désactivé Buzz. Ouais, je l'ai désactivé parce que ça me gonflait d'à chaque fois que je vais dans ma boîte mail de voir que j'ai 14 buzz non lus alors que ça fait 5 minutes que j'ai pas été à ma boîte mail parce que le truc voilà quoi, comme tu le disais tout à l'heure,
c'est vrai que quelqu'un répond ben voilà, c'est vrai que ça donne une impression, même si c'est pas exactement du spam, ça donne une impression de spam quand même assez vite. Et moi, avec
c'était le problème de
Friendfeed,
hein, c'était ça. Ouais. Pour moi, le Friendfeed killer, c'était le fait que t'avais, surtout si t'avais le malheur de suivre des gens qui sont super actifs dans la communauté comme Robert Scoble, où tu es spammé toutes les 10 secondes, ne serait-ce qu'à cause de Scoble, quoi.
Pareil, moi, au début, évidemment, je me suis connecté, j'ai fait mon truc de buzz et je me suis abonné immédiatement à des gens comme Jason Calacanis ou Léo Laporte, que sont des noms que vous commencez à entendre maintenant, hein, dans le rendez-vous tech, à force qu'on en parle. Mais au bout de 2 jours, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Ces mecs, ils ont 10, 15, 20 000 followers maintenant. Et à chaque fois que l'un des followers répond à un truc, ça me renvoie une alerte, mais c'est pas possible, quoi. Donc, je me suis désabonné, moi, de ces mecs-là. Et je garde. Donc, à mon sens.
Ce qui est dommage, parce que t'es quand même intéressé par ce qu'ils disent, mais voilà, soit tu prends tout, ou soit tu prends rien.
Mais en même temps, je me dis, il y a peut-être un moyen d'utiliser Buzz avec ce système, mais avec un cercle un petit peu plus réduit. C'est-à-dire que si je m'abonne à une quinzaine ou une trentaine de personnes qui ont un petit peu moins de followers, mais qui sont des gens que je connais vraiment, bon, même si eux, j'en connais quelques-uns, mais des gens, tu vois, avec qui j'ai des interactions vraiment quotidiennes, là, ça peut, avec les fonctionnalités de conversation, donner quelque chose d'intéressant. Mais peut-être, tu vois, si avec moins de personnes, c'est un petit peu plus intime, quoi. À la limite, Buzz peut devenir un truc un peu plus intime, et Twitter, carrément, beaucoup plus ouvert et être abonné. Lionel M. dire ça redevient Twitter, Patrick, dans ce cas, mais je suis pas d'accord. Dans Twitter, justement, tu envoies des messages comme ça dans le vide et puis tu as quelques réponses, mais pas énormément. Dans Buzz, si tu es abonné que aux quelques personnes que tu connais vraiment, ça devient un outil de conversation, une sorte de Twitter pour ton cercle d'amis proches, quoi. Amis, famille, tout ça, beaucoup plus proche. C'est l'analyse que j'en fais, moi, après une semaine, mais c'est clair qu'ils sont en train de modifier les choses et d'écouter le feedback de tous leurs utilisateurs. Peut-être que ça sera plus utilisable et moins spameux assez vite, quoi.
Ouais, enfin...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Juste pour reboucler, finalement, enfin, je pense vraiment que ça va marcher. Ma femme, par exemple, j'ai souvent essayé de lui dire, mais tu devrais aller sur Twitter, tu verras, c'est sympa. Mais dès qu'elle voit qu'il faut qu'elle crée un compte, elle fait un blocage là-dessus, elle dit non, j'ai pas envie de créer un compte et me souvenir d'un truc. Ouais. Alors qu'elle est sur Gmail, tu vois, et dès qu'elle a lancé son Gmail, elle a vu, ah, ben, activer Google Buzz, elle l'a activé et maintenant elle est sur Buzz. Tu vois, c'est juste un clic, il n'y a pas de compte à créer, de trucs comme ça. Et je pense que c'est au fur et à mesure comme ça que les nouvelles personnes qui vont arriver sur Gmail vont naturellement alimenter Buzz et ça va finir par percer.
Petit mot sur les problèmes de vie privée que ça a posé. Je donnerai un exemple. Beaucoup de gens ont gueulé parce que justement, comme ça prend les informations des gens avec qui vous communiquez régulièrement par email et que ça vous les colle de manière publique dans votre liste d'amis, ça a posé d'énormes problèmes auxquels les gens de Google n'avaient pas forcément pensé. Mais par exemple, il y a une histoire, je parlerai que de celle-là, d'une personne qui avait un blog sur un blog complètement anonyme sur des problèmes de couple, et notamment des problèmes de mari abusif, hein, de mari violent. Et du coup, ces personnes-là allaient laisser des commentaires anonymes sur son blog. Le blog renvoyait un message, si quelqu'un a déjà utilisé WordPress ou un autre truc du genre, quand vous mettez votre adresse email, l'adresse email est envoyée à l'administrateur par email avec votre commentaire pour que l'administrateur puisse le voir et éventuellement le bloquer ou commenter, etc. Et ben, donc ça envoyait cette adresse email à Google de manière, enfin, sans que ça n'apparaisse sur le blog, mais comme ces adresses email étaient là régulièrement, tout à coup, elles sont apparues dans la liste des personnes qui étaient suggérées en tant que followers pour l'administrateur du blog. Donc, il était possible, théoriquement, d'aller voir le compte Buzz de cet administrateur et de voir qui lui écrivait. Et du coup, l'anonymité était évidemment mise en danger et très, très réelle, quoi. C'est l'un des exemples par lesquels, pour lesquels Google a été complètement incendié pour ses problèmes de vie privée. Ils ont fait quelques modifications assez vite sur la manière dont fonctionnait Buzz, mais c'est sûr qu'il reste des problèmes à ce niveau-là, et c'est un petit peu discutable la manière dont ça a été implémenté, en tout cas maladroite à ce niveau-là. Bon, ensuite, chacun se fera son idée sur la chose. Donc, si vous voulez aller sur Buzz, c'est très simple. Vous créez un compte Gmail ou vous allez sur votre compte Gmail et vous activez Buzz. Ça fonctionne très bien. Et le gros avantage, comme le disait Yann, c'est que ça se fait tout seul. Pas besoin de faire de mise en place compliquée. Voilà. Bah écoutez, on va passer à la suite parce que là, on a fait énormément de temps sur Buzz et sur Windows 7, mais c'était les deux grosses news de ces deux dernières semaines. Donc, ça valait le temps qu'on passe, ça valait le coup qu'on passe un peu de temps dessus. Deux news un petit peu plus rapides. Apple a mis à jour son accord avec les développeurs d'applications sur iPhone pour leur spécifier qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser le GPS pour donner des informations publicitaires aux utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'a priori, Apple s'est de facto réservé le droit de faire des pubs locales, de faire de la pub localisée sur l'iPhone, ce qui a été reçu avec beaucoup de circonspection, on va dire. disons que c'est un truc assez, c'est à la limite du despotisme, quoi. Maintenant,
c'est Apple. Hein.
Apple fait absolument ce qu'ils font ce qu'ils veulent sur leur plateforme. Voilà. Mais c'est vraiment, on dit, bon bah vous avez pas le droit de faire de pub locale. Voilà. Nous, c'est nous qui allons le faire. Donc,
c'est hallucinant.
Réaction ?
Bah, je trouve ça vraiment hallucinant. Enfin, quand Apple, Apple propose...
Surtout que, excuse-moi Yann, je t'interromps juste deux secondes pour préciser que la pub locale, c'est l'Eldorado de la publicité sur téléphone portable. Hein.
C'est
cette idée que vous passez, vous êtes dans un quartier, vous passez à côté d'une pizzeria et là, votre téléphone vous dit hey, « Eh, Patrick, il y a une pizza 4 fromages mais délicieuse de chez Pizza Pino juste à côté. Tu devrais trop l'essayer, elle est super bonne. » Voilà. Et ben là, ils n'ont plus le droit de le faire. Il y a qu'Apple qui peut faire ça.
Ouais, et je trouve ça vraiment. Alors, qu'Apple interdise des choses qui peuvent nuire à l'expérience utilisateur et peuvent l'induire en dans des situations où ils comprennent pas vraiment ce qui se passe. Ça, je trouve ça tout à fait normal. Mais là, en l'occurrence, il n'y a rien qui puisse nuire à l'utilisateur. Au contraire, c'est lui fournir du contenu qui est plus adéquat par rapport à sa position géographique. Donc, il n'y a absolument aucun intérêt pour l'utilisateur à ce niveau-là. Et la seule chose
il y a un intérêt pour Apple et ses gros
ouf. Oui, mais je dis bien, au niveau de l'utilisateur, il n'y a absolument aucun intérêt pour lui, en tant qu'utilisateur iPhone. Au contraire, je vais retrouver donc de la pub qui n'a absolument aucun intérêt avec l'endroit où je suis, et je préfère avoir de la pub qui est de l'intérêt. Donc voilà, donc finalement, tout ce qui reste, c'est l'aspect pognon, quoi. Donc Apple dit, voilà, si vous voulez avoir de la bonne pub dans vos applications, ben il faut nous donner un petit peu des revenus que vous allez générer. C'est comme ça que je le vois, quoi. Donc, je trouve ça déplorable.
D'accord, ok. Bah, a priori, la manière dont ça sera implémenté, enfin, on n'en sait rien, hein, on déduit juste de cette petite modification, mais la manière dont ça sera implémenté, c'est qu'ils diront, nous, on a maintenant notre réseau de pubs sur iPhone, vous pouvez très facilement, vous, développeurs, mettre telle pub, enfin, nos pubs dans votre application, et vous aurez de cette manière des pubs locales et ce genre de trucs facilement. Et...
Nos pubs où on prend 40% des revenus générés, bien évidemment.
Ouais, bah oui, oui, bien sûr. C'est sûr. juste une autre, un autre exemple de ce genre de pub, ce que ça pourrait donner pour vraiment donner une idée aux gens qui nous écoutent, avant de donner la parole à Jeff. Par exemple, si vous êtes super fan de technologie, peut-être qu'Apple pourra savoir quelles applications vous avez downloadées, donc déduire un petit peu votre profil et vous proposer, pareil, une promotion chez Darty ou à la Fnac. C'est pas forcément la pizza, vous savez, Pizza Pino, c'est pas juste ça. Ça peut aller dans n'importe quel domaine, quoi. Donc c'est encore une fois un marché qui a énormément d'avenir. Et donc, Jeff, d'un point de vue business, toi, si tes amis de Tapulous, par exemple, s'ils se disaient, on voulait faire de la pub locale, et maintenant on peut plus, ils sont furieux ou
bah, enfin, je pense qu'il y a, quoi, y a deux choses. Il y a deux choses. D'ailleurs, Tapulous a lancé son deuxième jeu sur l'iPhone et c'était le numéro 1 top grossing app pendant deux jours.
Redeem Ribbon,
qui était un super jeu que j'adore. j'ai passé le million de points après avoir travaillé pendant trop de temps pour le faire.
Ouais, non, mais tu testais en fait. Tu testais la qualité de l'application. Ouais, tout à fait.
Bien sûr.
Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a un. Est-ce que, en tant que développeur d'application, je peux balancer des pubs à mes utilisateurs qui sont location-based, etc., etc. A priori, Apple a mis le holà par rapport à ça. Ce qu'ils disent pas, c'est on vous pourrait jamais le faire, ou est-ce que vous pourrez le faire qu'en utilisant nos propres infrastructures et notre propre ad network, puisqu'ils ont acheté Quattro.
Excuse-moi, il faut que je lise un commentaire qui est dans la chatroom, commentaire de Yanator. Déjà, bon, Yanator, c'est un bon nom, mais qui dit heureusement qu'il y en a certains qui ont encore le droit de faire de la pub, hein, Jeff, en parlant certainement de Redeem Ribbon. je trouve ça très bien dit. Et je dis également, Jeff a le droit de dire absolument tout ce qu'il veut dans cette émission. Donc voilà.
D'abord, nanana. Et puis de toute façon, mon rôle, je suis un pimp, d'accord.
C'est un pimp.
Donc je pimp les boîtes.
Pardon, continue.
Bref, donc ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce que Apple va répondre à. C'est-à-dire que si Apple disait, vous n'avez absolument aucun droit de faire de la pub qui soit location-based, etc., etc., ce serait une hérésie. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, c'est une des promesses de revenus énormes du monde du mobile. Donc, à mon avis, soit c'est parce qu'ils voulaient limiter, en fait, les notifications qui arrivent sans arrêt, pour te dire, il y a une pizza ici, il y a un Coca-Cola ici, etc., etc., parce que c'est quand même une expérience utilisateur qui n'est pas géniale. Et le deuxième, c'est peut-être qu'ils veulent se réserver, pourquoi pas, c'est Apple, eux ils le font, les autres hésiteraient, ils veulent se réserver une petite exclusivité sur ce genre de fonctionnalité pour un moment donné. Cela dit, il y a quand même un côté anti-concurrence qu'il ne faut pas négliger, donc je ne suis pas sûr que ce soit, tu vois, entre cet Apple qui essaie de se garder tout le marché pour eux et... ils essaient de préserver en fait l'expérience utilisateur. Je pense que au milieu de ces deux aspects se trouve la vérité quant à leur motivation. Parce que ouais. Tu vois par exemple ce que fait Foursquare aujourd'hui, donc c'est un espèce de réseau social où la géolocalisation est l'élément fondamental.
Donc c'est un réseau social où on peut par exemple dire maintenant je suis au Grand Véfour et voilà. J'y suis pour la troisième fois cette semaine, je gagne un badge de truc.
T'as un badge pour le mec qui est le... peut-être que tu deviens le maire du Grand Véfour en l'occurrence.
Ça c'est un bon pote à avoir quand même.
Exactement. Et aujourd'hui ils ont tout un tas de campagnes de promotion qui sont... en partie lié aux endroits que tu vas visiter, en partie lié à ta géolocalisation, j'ai pas l'impression que Apple leur fasse leur cherche des noises. Donc, ouais. Je sais pas, faut voir un peu comment ça se développe, mais je suis certain, connaissant Apple, que, parce qu'ils ont racheté Quattro récemment et qu'ils ont essayé de racheter AdMob il y a 3-4 mois quand le deal était sur le marché, Je suis sûr que c'est quelque chose que Apple va chercher
Ouais.
à offrir parce que ça a du sens.
Ouais. Bon, enfin, tout ce dont on parle là, c'est un petit peu de la spéculation. Mais effectivement, comme ils ont racheté Quattro, c'est une agence de pub sur téléphone portable. On va facilement vers cette conclusion-là, mais on est encore en train de spéculer. Dernière chose dont je voulais parler ici, c'était.
Achète pas quelque chose pour 250 millions, même quand t'es Apple, si c'est pas pour l'utiliser.
Oui, non, ça c'est certain, oui, effectivement. Donc, dernière chose dont je voulais parler, c'était la question du prix du livre. Parce que suite à l'annonce de l'iPad et de ses iBooks, de ses livres électroniques vendus 13 ou 15 dollars, les gens, les éditeurs qui avaient des deals avec Amazon, chez qui ils vendaient leurs livres électroniques à 10 dollars, c'était un prix unique, eh ben, ils sont allés voir Amazon et ils ont dit, bon, bah, écoutez, nous, Apple nous propose de les vendre à 13 ou 15 dollars, on veut la même chose, sinon on se barre. Et notamment, c'était Macmillan, qui est un gros éditeur américain, qui a dit ça. Amazon a dit, mais 15 dollars, vous êtes malade, les utilisateurs ne voudront jamais ça, non, 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 pas question. Macmillan a dit, ah ouais, c'est comme ça, bon, bah, on se barre. Pendant 24 heures, ils ont disparu du Kindle Store, donc du magasin de livres électroniques d'Amazon, mais aussi d'Amazon tout court, donc les livres physiques, les livres papier. Et au bout de 24 heures, Amazon a plié. Et ils ont dit, bon, bah, écoutez, c'est votre choix, c'est vous qui décidez, mais on est certain que ça ne sera pas un choix apprécié par les utilisateurs. Et ils ont fait une sorte de lettre ouverte en disant, bah, maintenant, c'est à vous, les utilisateurs, de choisir si vous voulez ou non acheter des livres à ces prix-là. Et nous sommes convaincus que vous exigerez des prix plus faibles. Sauf qu'entre-temps, avec cette petite opération, cette petite danse qu'ils ont fait, les autres éditeurs ont vu ça et ils se sont dit, ah, on peut vendre les livres à 13 ou 15 dollars, bah, nous aussi, on veut pareil. Du coup, les livres qui étaient tous à 10 dollars sur le magasin de livres d'Amazon, les livres électroniques, ils sont tous en train de passer à 13 ou 15 dollars. Et là, c'est une réflexion presque philosophique que j'aimerais faire, parce que ma première réaction, c'est, mais ils sont complètement idiots de vouloir vendre leurs livres à 15 dollars, c'est alors qu'un livre de poche, ça coûte 7-8 dollars, même pas. Pourquoi est-ce qu'on paierait un livre électronique où il n'y a pas de production de papier, pas de machin, pas de rien? On le paierait deux fois plus cher, c'est ridicule, c'est une politique complètement à court terme, ils n'ont aucune vision à long terme de la manière dont ça va marcher, ils vont dégoûter les utilisateurs et donc ils devraient absolument regarder, voilà, Amazon a bien raison, ils devraient les laisser à 10 dollars. Ça, c'est la première réaction. Mais d'un autre côté, ça pose une question qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus importante, qui est à qui revient le rôle de la fixation du prix du livre? Parce que autant nous, en tant qu'utilisateurs, on se dit 10 dollars, c'est mieux que 13 ou 15 dollars, autant si on voit les choses du point de vue de l'éditeur, il a bien le droit de choisir à quel prix il vend son livre. S'il se plante et qu'il va dans le mur, bah, c'est tout de même son droit. Moi, si je décide d'ouvrir une maison d'édition et que je me dis, tiens, mon pote Jeff et moi, on va sortir un livre, et on a décidé qu'on voudrait le vendre à 150 dollars, eh ben, personne ne voudra l'acheter. Enfin, bon, peut-être que comme c'est Jeff, les gens voudront l'acheter quand même, mais si personne ne veut l'acheter, c'est bien notre droit de décider à quel prix on va le vendre. C'est pas à Amazon de m'imposer un prix de 10 dollars, quelle que soit mon envie, ni à Amazon, ni à quelqu'un d'autre d'ailleurs. Donc, c'est une question qui est quand même importante et qui n'est pas si simple que ça, et ça pose tout un ensemble de questions sur le fonctionnement de l'économie numérique. Qui s'est déjà posée pour la musique, qui se reposera certainement dans d'autres domaines, mais qui est intéressante pour la question du livre parce que elle est encore plus présente étant donné que le marché est en train d'éclore maintenant. Rapidement, on fait un petit tour de table. Vous en avez pensé quoi de cet événement, toute cette histoire entre Amazon et Macmillan?
Je vais laisser Jeff prendre la parole en
C'était
premier.
intéressant parce que ça prouvait que là on voyait vraiment qu'Amazon avait pris la main. En fait, Amazon avait fait au monde du livre ce que Apple avait fait au monde de la musique, c'est-à-dire ils avaient dit bon bah voilà, c'est notre price point, c'est comme ça, point. Et en gros, Macmillan a dit bah non, non. Et ils ont pris le risque en fait. Ils ont call le bluff de d'Amazon. Et
ah ouais, c'était un coup.
C'est un coup de bluff. Hein.
C'était un coup de poker complètement. Macmillan a dit non, bah on se barre. Évidemment, il pouvait pas rester en dehors d'Amazon très longtemps parce que c'est le vendeur principal de livres, c'est la librairie principale aux États-Unis. Et Amazon a plié. C'est Amazon qui a blinké, comme on dit en anglais. Et donc tout le monde s'est engouffré dans la brèche, quoi.
Ils ont plié, et donc ça prouve que les éditeurs ont quand même de la réserve sous le pied quant à leur capacité de fixer les prix, etc. etc. Je pense qu'in fine, faudra voir un petit peu l'impact sur le marché du livre électronique. Faut pas oublier que donc on a en même temps que tout ça se passait, t'as quand même l'iPad qui se pointe avec le store d'Apple. Et je pense que si je suis Amazon, je regarde ça avec un peu d'inquiétude, parce que bon, Apple c'est quand même l'autre gros du marché de la vente électronique. Et donc se dire bah tiens, Macmillan n'est plus chez nous, il part chez Apple. Est-ce que c'est pas donner à Apple une possibilité de d'avoir des titres exclusifs qui sont populaires? Donc ce que je sais pas, c'est qu'est-ce qui a fait plier, pourquoi est-ce qu'Amazon a plié aussi rapidement? Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient en fait conserver Macmillan, ou est-ce que c'était à cause de l'arrivée d'Apple sur le marché?
Ouais. Ah, c'est sûr qu'il y a sans doute un peu des deux, hein, parce que si Apple n'était pas là, d'abord, Macmillan n'aurait pas eu le deal à $15 avec Apple, et en plus, s'il n'y avait pas Apple, il n'y avait pas vraiment d'alternative au Kindle. Bon, il y en a, mais
Sony, t'as Sony, t'as Barnes & Noble.
Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tiens, d'ailleurs, à propos de la question des prix, tu évoquais la question de la musique, et c'est vrai que une annonce qui a été intéressante dans le monde de la musique, c'est que les majors se sont rendus compte que en augmentant le prix des singles sur iTunes à $1.29, ils ont ce prix variable, et les morceaux les plus populaires sont à $1.29, alors qu'Apple voulait absolument garder tous les prix à 99 centimes. Et ben, en montant ces prix, ils se sont rendus compte que les gens en achetaient moins. Donc ils se sont dit, ouais, finalement, dans une période de récession, c'était pas forcément le meilleur moment pour augmenter les prix. On a fait moins d'argent qu'on pensait, on en a vendu moins que si les prix étaient à $99. Et je pense que c'est ils méritent vraiment le prix, pour le coup, comment on pourrait traduire Captain Obvious en français? Capitaine Évidence, en fait, c'est une sorte de la palissade, quoi. C'est la palissade de l'industrie du disque. Les mecs, ils découvrent l'évidence, quoi. C'est ça. C'est découvrons l'évidence, leçon numéro un. Enfin bon. Donc, c'était. Peut-être que, enfin, sans doute, que les gens de l'industrie de l'édition vont se rendre compte de la même chose aussi, quoi. Ils ont eu une expérience à $9.99 qui est déjà un petit peu cher par rapport à un livre en poche. Et ben là, ils vont voir peut-être qu'à $15, ils vont en vendre encore moins. Et peut-être que ça les fera changer d'avis.
Ouais, mais je pense que c'est là où tu fais tes études d'élasticité de prix. C'est là où tu vas voir est-ce que tu mets le prix standard à $15, mais tu fais ensuite des rabais, des packaging, du packaging, où tu peux dire tu prends trois bouquins, ces trois bouquins là, et tu les as à $10. C'est là où tu vois un peu comment le prix personnalisé en fait peut amener les gens à prendre des décisions d'achat. Et c'est ce à quoi Amazon excelle maintenant, parce qu'ils ont établi en fait des bases de données, de métriques, de tendances, de coûts, de machin, de est-ce que tu te connectes le matin ou l'après-midi, d'où est-ce que tu te connectes, etc. Et en gros, ils font du pricing adapté en fonction de ça.
Prix différents si tu te connectes le matin.
Tu vas avoir, pas en fonction de tous les produits, mais je ne sais pas si tu as entendu parler de ce service qui s'appelle Blippi.
Non, pas vraiment.
Blippi, donc B-L-I-P-P-Y, c'est un service qui est disponible, je pense, aux États-Unis, où tu t'enregistres, tu mets ton numéro de carte de crédit, et à partir du moment où tu fais une opération, tu as sur Twitter
l'information
qui vient de sortir. Donc c'est Philippe Kaplan, qui était donc l'instigateur de Fuck Company dans la précédente bulle, qui est maintenant le CEO, ces deux jeunes ingénieurs qui ont eu cette idée-là. Et en fait, Amazon a dit à Blippi, bon les gars, vous virez toutes nos transactions Amazon, vous les virez de Blippi. Interdiction, on vous interdit de les mettre sur le service. Pourquoi ? Bah parce que si tu avais en fait toutes les transactions d'Amazon qui passent, tu te rendrais compte que tu as des items, genre un bouquin, genre quelque chose, qui n'est pas vendu le même prix en fonction de qui tu es. Où tu es, est-ce que tu as consulté cet item une fois, est-ce que tu l'as mis dans ton cart, est-ce que tu as abandonné le cart. Si tu as abandonné le cart, c'est leur intérêt en fait de te balancer un coupon ou un email en te disant bah tiens, on te fait $2 dessus. Donc ils sont passés maîtres en fait sur l'activité de rétention, donc comment est-ce qu'on fait en sorte de te ramener sur le site et de te faire acheter des trucs.
C'est super intéressant ça. Moi quand je vais acheter un truc sur Amazon, en fait à partir de maintenant je vais systématiquement y aller 2 jours avant, le mettre dans mon, dans mon panier et quitter sans l'acheter, comme ça j'aurai des prix.
ça peut effectivement arriver et tout dépend aussi de leur stock, etc. donc
ouais,
en fait
bien sûr, ouais.
ils font du pricing en fait dynamique. Et ils veulent pas que les gens sachent en gros quels sont les. Enfin, en gros, ils veulent pas que les gens se rendent compte que bah tiens, s'ils avaient attendu, genre si c'était logué 2 heures plus tard, ils pouvaient l'avoir à $10 moins cher, quoi.
Oui, c'est sûr que c'est un petit peu rageant si tu vois ça sur Twitter. Jeff vient d'acheter la trilogie du Seigneur des Anneaux pour $4 alors que je viens de la payer 48 deux minutes plus tard. Plutôt. C'est un peu frustrant. Bon. Écoutez, ça fait 4 sujets assez denses dont on vient de parler. Je vous propose qu'on se détende un petit peu en parlant de
la séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
Yann, je t'ai même pas laissé l'occasion de parler sur.
Non, mais j'avais pas grand chose à dire en fait. Je pense
Ah, il y va quand même, ok.
non, mais ce sera très rapide. Déjà, sur l'aspect qui décide des prix, etc. Enfin, je pense que si jamais j'écris un bouquin, je peux décider de le vendre au prix que je veux, ça me regarde. Mais à partir du moment où je veux bénéficier de la vitrine de quelqu'un d'autre qui a investi beaucoup d'argent pour créer cette vitrine, pour créer cette visibilité, quelque part, je dois quand même me plier aux exigences de cette personne. Donc moi ça me choque pas tant que ça finalement qu'Amazon dicte ses lois. Et
tu dis ça juste pour me faire chier en fait. C'est ça, à vous.
Non, je te promets que non en fait.
D'accord,
enfin,
okay.
Mais quelque part ça me fait plaisir que ça te fasse chier. Mais l'autre truc c'est que au final ce sera le consommateur qui aura le dernier mot quoi. Donc à partir du moment où voilà, j'estime que c'est trop cher, que j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans un bouquin électronique, surtout électronique qui est donc directement en concurrence avec le piratage et les e-books, etc. Ils vont le sentir très très vite quoi s'ils mettent leur pricing trop haut. Donc je pense que ça va automatiquement se réguler et on va avoir des prix acceptables quoi d'ici peu.
Faisons confiance à la main invisible du marché. donc nos rumeurs à la con.
C'est bon que tu dis ça, Patrick.
Donc on est aux rumeurs à la con. Je vais aller très vite en notant excusez-moi, hein, je prends des notes en même temps, je fais mes courses, etc. Donc, les rumeurs à la con, on en a quelques-unes dont je voudrais parler, je vais aller très vite. Première, Amazon a racheté une boîte qui s'appelle TouchCo, qui fait donc des écrans tactiles. Il n'est pas impossible qu'on voit débarquer des Kindle avec du tactile. On ne sait pas dans quelle mesure, comment, toujours avec le même écran en e-paper ou pas. On ne sait pas, mais ils ont racheté en tout cas une boîte qui fait du tactile, c'est intéressant. Autre nouvelle, il y a une sorte, tiens c'est marrant ça, je pense que ça va plaire à Yann, il y a une guerre de botnets qui sévit depuis quelque temps. Alors les botnets c'est quoi ? Vous savez tous ces programmes malveillants qui s'installent sur votre ordinateur quand vous avez cliqué là où il fallait pas sur internet et que vous avez installé super client chat, regardez vos amis à poil, vous pouvez avoir gratuitement des logiciels pour pas cher et complètement gratuits, tout ce genre de trucs là. Et ben ça installe des programmes indésirables sur votre ordinateur qui forment des botnets. Un botnet, c'est un réseau d'ordinateurs qui est aux commandes de malfaiteurs qui font généralement beaucoup de spam, qui envoient beaucoup de spam et qui fonctionnent discrètement sur les ordinateurs de millions d'internautes qui ne s'en rendent pas compte. Eh bien, il y a un botnet nouveau qui est arrivé qui essaye d'éradiquer un autre botnet, non pas pour le bien de l'humanité, mais pour s'installer à la place de cet ancien botnet. Donc il y a une sorte de cyberguerre qui est en train de se passer dans les ordinateurs des gens qui font pas attention. Et c'était plutôt marrant comme nouvelle qu'ils se commencent à se battre entre eux, à se désinstaller, à se handicaper, à se... Enfin bref, c'est plutôt bizarre, il y a la guerre des botnets. C'est marrant. Autre nouvelle...
Juste une chose. Ouais. C'est pas uniquement quand tu vas chercher des programmes que tu devrais pas aller chercher, etc. L'autre jour, mon fils était sur Wowiki pour aller chercher des informations sur une quête à propos de World of Warcraft. Il n'a pas cliqué sur la pub qui se trouvait en haut à gauche, mais il est passé dessus. Ça a déclenché l'installation d'un programme qui s'appelait Antivirus XP 2010, qui est un malware pas possible, qui te force en gros, qui te bloque ta machine, qui te force à l'acheter pour le virer, sauf si tu as un papa qui connaît en fait la méthode. Mais ça m'a mis une heure pour virer cette saloperie de son ordinateur. Donc faites attention où vous allez. Et c'est pas uniquement en download des programmes qui ne sont pas les bons.
C'est vrai que je plaisantais en disant, en allant sur des sites bizarres ou en installant des trucs étranges, mais c'est vrai que ça peut arriver un petit peu n'importe où. Il faut être vigilant à tout moment.
Malheureusement, certains réseaux de pub qui ne font pas attention se retrouvent être les canaux de transmission de ces saloperies.
C'est sûr qu'il faut faire... Enfin, bref, on ne va pas se lancer dans les méthodes de filtrage des publicités pour les régies publicitaires, mais c'est vrai que parfois, même si on est le site le mieux intentionné du monde, il peut y avoir des petits problèmes en fonction de certaines pubs. Autre info, allez hop, les jeunes ne créent plus de contenu sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, la dernière étude montrait que... je crois que c'était... Attendez, que je dise pas de bêtises. Les jeunes avaient des blogs ou créaient des sites de manière beaucoup plus importante que ça n'est le cas aujourd'hui. Je suis désolé, je ne retrouve plus les quantités. En gros, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens font moins de création de contenu et se contentent de mettre à jour leurs updates dans les réseaux sociaux, là où ils avaient des blogs il y a encore quelques années. Et c'est en particulier vrai pour les jeunes entre 12 et 17 ans. Donc les jeunes, lâchez Facebook et allez écrire quelque chose d'intéressant.
Sans faute d'orthographe. Hein.
Oui, ça, c'est un peu trop demandé quand même. Hein. Sans faute d'orthographe, voilà. Je crois que c'est difficile pour les jeunes aujourd'hui.
Des fois, j'ai ma sœur qui m'envoie un texto, je comprends absolument rien. Donc, des fois, je me dis que c'est pas plus mal qu'elle ait pas de blog, quoi.
C'est pas forcément faux, ouais. Autre info, il y a plus de Gmail en Iran. L'Iran a décidé de bloquer complètement Gmail et de développer une alternative d'État. Je sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe en Iran, mais ça va de mal en pire. Et ils ont décidé, la dernière chose, c'est de bloquer complètement Gmail. Donc les Iraniens n'ont plus vraiment accès à Gmail. Nouvelle plus intéressante et plus amusante dans le domaine de Google, c'est cette dernière petite nouvelle. On voulait parler aussi du fait qu'ils deviennent fournisseurs d'accès Internet, mais c'est pas tout à fait vrai. Il faudrait en parler un peu plus longtemps. Donc Google fait des tests sur l'accès au débit dans certaines petites villes des États-Unis. Ils seront peut-être fournisseurs d'accès Internet. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour le moment, la nouvelle marrante, c'est que Google Street View rentre dans les magasins.
Oh.
Alors, c'est carrément super bizarre. C'est-à-dire qu'on a repéré des gens qui appartiennent a priori à l'organisation de Google, qui sont rentrés dans les magasins et qui ont pris des photos 360 degrés dans les magasins. Alors les gens se disaient « Ah mais merde, attends, le magasin c'est un petit peu privé, c'est... » Bah non, en fait, un magasin c'est public. Donc il n'est pas impossible qu'on voit débarquer d'ici quelques temps dans Google Street View, donc quand on rentre dans Google Maps et qu'on va au niveau de la rue et qu'on voit les photos de la rue exactement comme elle est, un jour, et qu'on peut se déplacer genre dans la rue en allant un petit peu plus loin, à droite, à gauche, machin, bah un jour, proche, on pourra peut-être carrément rentrer dans les magasins et voir comment c'est à l'intérieur. et peut-être, pourquoi pas, obtenir des réductions si on rentre dans une librairie, par exemple, obtenir une pub pour le dernier bouquin de Stephen King ou un truc comme ça.
Ouais, ça peut donner des interfaces sympas ou rentrer dans le magasin et acheter ces trucs directement depuis Street View, quoi, et puis les recevoir par courrier après.
Une sorte de réalité virtuelle augmentée extrême.
Eh ouais, eh oui.
C'était en quelque sorte la... Alors, bon, tant pis, je vais en parler. C'était en fait en partie la démo de Microsoft sur ATED, là, il y a 3 jours, où en fait, ils te montraient... Bon, c'était pas Google, c'était les maps Bing, où tu arrivais donc sur le marché et tu voyais une vue statique, donc... De ce marché, et d'un seul coup tu avais quelqu'un qui faisait du streaming avec un téléphone qui devait être un téléphone standard qui te montrait en fait la superimposition temps réel des gens qui visitaient ce magasin, et donc tu voyais, tu avais une espèce de panning où parce que tu avais une image temps réel de ce magasin, tu voyais les gens en fait interagir à l'intérieur. C'est assez.
Donc, il te montrait, en fait, c'est comme une sorte de enfin, c'est une sorte de caméra à l'intérieur du magasin que tu peux voir quand tu vas dans la carte sur Bing. Sauf que la caméra, c'est pas une caméra fixe, c'est juste un mec avec son téléphone qui se trouve être en train de filmer à cet endroit, à ce moment-là, quoi.
Voilà. Et il faisait, et basé, en fait, sur la capacité du téléphone à te donner la position avec le GPS et l'angle avec le compas, il pouvait, en fait, faire un overlay entre eux. L'image statique qu'ils avaient et la vidéo.
Ah, intéressant, c'était... effectivement.
Ouais, c'était assez waouh.
C'est marrant, hein, toutes ces technologies sont en train de se rejoindre et en train de former des trucs vraiment. C'est de la science-fiction, quoi, tous ces trucs. Plus ça va, plus on arrive à des niveaux de technologie qu'on considérait comme de la science-fiction il y a 15 ans, quoi.
La réalité augmentée, ça va être un des gros, en tout cas dans mon domaine, donc qui est le financement de nouvelles technologies, tu vois des boîtes qui font de l'infrastructure de réalité augmentée qui se font financer. Là aujourd'hui est annoncé le financement de LAYR, LAYR, qui est une boîte néerlandaise qui développe une infrastructure pour les opérateurs mobiles. Et il y a trois mois, il y a une boîte japonaise qui développe un produit sur l'iPhone qui s'appelle Senkai Camera, qui est une caméra de réalité augmentée.
Senkai Camera.
Tanchidot est le nom de la boîte.
Ouais, Tanchidot, tout à fait, qui avait fait une démo l'année dernière.
Non, c'était pas à tête, c'était au TechCrunch 50 de 2007. Où ils avaient fait une démo qui était, enfin la présentation était sympa, mais après le Q&A qu'avait fait le CEO japonais qui répondait en mauvais anglais, donc mais c'était super drôle et tout le monde en fait on avait gardé un super souvenir parce que c'était vraiment marrant. Ouais. Mais en tout
c'était très impressionnant quand ils ont fait la démo Tanchidot, et LAYR d'ailleurs est disponible sur iPhone depuis un moment déjà.
Et donc ils étaient bootstrap, et là ils viennent de faire rentrer 2,5 millions d'euros, je crois, un truc comme ça.
Sympa.
Très sympa, et c'est vrai que c'est quelque chose que je vois assez souvent aujourd'hui à passer dans mes bureaux. C'est on fait ça en réalité augmentée. Bon, ça reste encore, on en est encore au balbutiement, mais c'est clairement une trend qui fera que dans 2 ou 3 ans, ce sera partout, quoi.
Bah écoutez, donc vous l'avez entendu ici en premier, dans 2 ou 3 ans, le rendez-vous tech en réalité augmentée. Vous verrez Jeff et Yann flotter dans le MP3 et en streaming, ça sera magnifique. Bon, bah écoutez, oh, vous savez quoi ? Je crois que c'est le moment est arrivé de faire ceci.
Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du bouton « J'ai de la chance » figurant sur la page d'accueil de Google. Ce bouton a pour vocation de permettre l'accès à une page recherchée en un seul clic, en misant sur la probabilité que la page la plus pertinente sera celle en tête des résultats du moteur. Mais ce bouton génère certains désagréments. Accessible dès la page d'accueil, l'internaute qui l'utilise n'est jamais exposé à la publicité. Le manque à gagner est évalué à 110 millions de dollars, soit environ 2% du chiffre d'affaires annuel de Google. Par ailleurs, le bouton n'est pas infaillible, et des recherches ont montré qu'en moyenne, son absence améliore de 6 millisecondes l'expérience utilisateur de l'internaute. Or, Google évalue à 1% les requêtes soumises via le bouton « J'ai de la chance », ce qui représente près de 770 millions de requêtes. Ainsi, si le bouton était supprimé, Google économiserait pas moins de 53 jours de temps machine par mois. En réalité, Google souhaite conserver ce bouton, car d'après Marissa Meyer, sa vice-présidente, le bouton apporte une touche de fantaisie et rappelle que la société est dirigée par des gens cool qui ne se prennent pas au sérieux. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. À bientôt.
Les 56 millisecondes qui coûtent je ne sais plus combien de millions à Google, c'est quand même pas mal.
Et 6 millisecondes.
6 millisecondes par 750 millions de recherches, c'est quand même fort. Pour montrer aux gens qu'on ne se prend pas au sérieux, c'est quand même une décision assez intéressante. Évidemment, c'était la statosphère de Guillaume qui nous envoie chaque semaine des petites infos marrantes sur les statistiques du web. Et une fois de plus, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces infos sur statosphere.fr, le site de Guillaume avec tous ces chiffres et d'autres encore.
Moi, j'ai une question pour tous nos amis dans la chatroom.
Vas-y.
Je peux ?
Attention, soyez prêts. Attention, 1, 2, 3, question de
la chatroom. Je voudrais savoir qui parmi vous a utilisé le bouton « J'ai de la chance » dans les derniers 3 mois.
Ah, bonne question. Bah, en attendant les réponses de la chatroom, je peux vous dire que moi, je ne l'ai pas utilisé du tout. Mais jamais.
Pareil.
Non, jamais. Alors, il y en a un qui dit Dark Vador. Je crois qu'il n'a pas compris la question.
Pour le truc de...
Pour le truc... Vert.
Là, ouais. Jérôme... Merci, The Reaper. Voilà, c'est la solution. Voilà pourquoi j'ai de la chance. C'est par rapport aux blagues de Chuck Norris. Chuck Norris a inventé le bouton pour lui-même. En fait, c'est le bouton.
Ah, d'accord, ok. Jérôme nous dit qu'il a jamais de chance. Enfin, effectivement, les gens n'ont pas l'air de trop l'utiliser. Moi, personnellement, je l'ai jamais utilisé non plus. Mais en même temps, quand on tape un mot, le nom d'un site web sans le .com dans la barre de recherche, qu'on tape Enter et qu'on clique sur le premier lien de Google, c'est presque utiliser le bouton de j'ai de la chance. Si on pouvait faire j'ai de la chance comme ça, ça serait la même chose. Bon, ça veut rien dire ce que je dis, mais je me comprends. Ok, bon. Je crois qu'on est arrivé au site fantastique qui aujourd'hui est un site assez intéressant qui va faire plaisir aux fans de logiciels libres puisque c'est le site Alternative Tout. Vous entendez bien comment je francise la chose. Alternative Tout, c'est Alternative A. Qui vous permet de trouver des alternatives à des logiciels que vous utilisez. Par exemple, si vous connaissez Photoshop et que vous voulez utiliser un autre logiciel qui ressemble, qui fasse la même chose, qui soit peut-être qui coûte pas $1,650 comme Photoshop, et ben vous allez sur alternativetout.net, vous cherchez Photoshop et vous allez avoir une liste d'applications qui font un petit peu la même chose, plus ou moins. Vous trouverez par exemple GIMP pour Photoshop. Si vous cherchez une alternative à Office, Microsoft Office, vous trouverez OpenOffice qui marche très très bien, qui est un petit peu simple et basique, mais qui fonctionne très bien, etc., etc. Et ça marche même pour les logiciels un petit peu plus obscurs, les antivirus, les logiciels de compression de fichiers, etc., etc. C'est super bien foutu, c'est très simple et ça donne plein de bonnes idées. AlternativeTout.net. Exactement. Et Jérôme demande, décidément, il est en forme, Jérôme. Il dit, et si on tape Patrick Béja dans Alternative Tout, je crois que ça donne Yann Allais.
Oh,
mais c'est une version plus open source, mais moins efficace quand même. Il faut bien l'avouer.
Salaud.
Et je vous confirme que si vous tapez Chuck Norris et j'ai de la chance, vous tombez sur les jokes de Chuck Norris.
Magnifique. Donc, tout va bien.
La stabilité de l'univers est assurée.
Très bien. Et vous savez qu'est-ce qui est également assuré ? Oula, j'ai essayé de faire une transition vers iTunes, mais en fait, j'y arrive pas. ce qui est assuré, c'est que si vous nous laissez un commentaire sur iTunes, eh bien, nous serons super heureux et super contents et fiers en même temps. Parce que vous le savez, iTunes, c'est le répertoire des podcasts. Malgré tout, Apple a quand même une position dominante là-dessus. Et quand vous nous laissez des commentaires, ça nous fait gagner un petit peu en visibilité. Et vous nous aidez un petit peu à ce niveau-là aussi. Et vous pouvez faire comme, par exemple, Marcus93 qui a mis un commentaire qui est une sorte de mini-critique qui me donne l'occasion de répondre. Il dit... il manque juste la mise en place des chapitres car le podcast est long et on n'est pas forcément intéressé par toutes les actualités. Je comprends et je dirais même que je suis plutôt d'accord avec le fait que les chapitres seraient peut-être une bonne idée. Moi, je suis pas super fan, mais je comprends qu'il y a une demande pour ça de certains. Le problème, c'est qu'il faut utiliser un format particulier qui est le format AAC et non plus le format MP3 et que moi, je ne veux pas avoir plusieurs formats différents. Je veux avoir un format qui est unique et qui est super simple. Moi, je suis un petit peu comme Apple. C'est un seul prix pour tous, un seul format pour tous. Et là, en MP3, c'est le format le plus universel et il ne fait pas les chapitres. Donc, je suis désolé. Effectivement, c'est un petit peu gênant. Pour ceux qui adorent les chapitres, mais je crois que c'est quand même pas totalement indispensable non plus. Donc je vous remercie de votre indulgence à ce niveau-là. C'est vrai que ça pourrait être pas mal, mais on ne le fait pas pour tout un tas de raisons. J'espère que vous comprendrez. Autre commentaire de D-Wayne971, cette fois-ci, il nous dit « Ça fait quelques mois que je suis le rendez-vous tech et c'est toujours génial à écouter. Pertinent et drôle, Patrick & Co. traite en profondeur et de manière décontractée l'actu high-tech. Continuez comme ça. » Et voilà, je te remercie grandement, D-Wayne, d'avoir laissé ce commentaire sympathique avec 5 étoiles. On a une grosse majorité de 5 étoiles quand même. C'est vraiment sympa de votre part. Ça fait plaisir. On est à une moyenne, je crois, de 5 étoiles. Et c'est surtout, wow, il faut le dire, grâce à Yann et Jeff.
Oh, mais pas c'est tout. Également grâce à Lionel et Sandrine. J'ai pas eu l'occasion de le dire en intro, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a du sang neuf qui arrive sur le rendez-vous tech. Je sais pas s'ils ont l'occasion de revenir, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié leur intervention la dernière fois. Et donc, je voulais leur faire un petit clin d'œil.
Ça me met un peu mal à l'aise parce qu'en fait, j'ai décidé qu'ils reviendraient jamais. Ils m'ont fait chier.
J'en étais sûr.
Non, bien sûr,
tu
vous aurez
cette question-là avant l'émission.
Qu'est-ce qu'on a dit, Yann ? On prépare l'émission.
Hein ?
Non, bien sûr. Lionel et Sandrine.
Hein, pourquoi on répète l'émission avant tout, avant de la
lancer, hein ? C'est vrai. Désolé.
Lionel et Sandrine seront
en coupe.
C'est trop tard. Il y a pas de. On peut pas reprendre les infos sur Internet. C'est déjà dans le chatroom.
Eh ben oui.
D'ailleurs, Sandrine, à qui on passe le bonjour, bien sûr, et Lionel. D'après ce que j'ai compris, il y aurait peut-être. Bon, je vais peut-être pas le dire. Non, si.
Ah ben je sais pas.
D'accord. Bon. Mais disons que Yann est en contact avec Lionel. Si j'ai bien compris, ils vont peut-être.
C'est donc ce Lionel là.
Ah, je ne le savais pas du tout.
Ah ben ça change tout. Alors j'aime pas du tout ce garçon.
Ah d'accord.
Non, okay. Je plaisante. Non, effectivement, on va peut-être faire quelque chose ensemble.
D'accord, écoute, j'ai hâte. Ça, et dans tous les cas, vous pouvez retrouver Lionel dans son podcast Techno IT qui est plutôt spécialisé dans l'actualité technologique pour les entreprises. C'est tout à fait passionnant. Écoutez, si vous voulez retrouver d'autres personnes ou en tout cas suivre l'actualité de nos chers animateurs en dehors de l'émission, que faut-il faire ? Yann, dis-leur tout.
Écoute, ça n'a pas changé, c'est toujours YannAllé sur twitter.com et vous me retrouverez sûrement pas sur Buzz tant qu'ils n'auront pas de clients lourds, voilà.
D'accord, très bien. Et Jeff, où retrouve-t-on toutes tes aventures extravagantes entre TED et les autres conférences incroyables auxquelles tu assistes ?
Twitter.com/Jeff est toujours la source principale, Facebook.com/JeffClavier est une version dérivée et je sais pas l'URL de Buzz, c'est Google Buzz profil Jeff.clavier, quelque chose comme ça, mais de toute façon, vous allez sur Twitter, Jeff, c'est le plus simple. Et je
voilà,
suis là.
C'est ce qu'il y a de plus facile. Et moi, sur Twitter, c'est NotPatrick, vous le savez hein, maintenant, depuis le temps que je le répète. NotPatrick sur Twitter, lrdv.fr pour le blog. Et vous pouvez également aller sur frenchspin.com, vous aurez tous les liens, toutes les infos, le calendrier, comment accéder au live, etc., etc. Et puis on va vous laisser et on vous retrouve évidemment dans 15 jours pour une prochaine émission du Rendez-vous Tech. Merci à tous et à dans 15 jours. Ciao ciao.
Salut,
salut à tous.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.